Veil.
Today, ladies and gentlemen, you're listening to Andre and Max of the Deadly Snakes plugging each other with a peg leg. In Montreal, Andre and Max of the Deadly Snakes.
CKUT 90.3 FM.
This episode of Viewpoints is a rerun. Hello and welcome to Viewpoints. Boris Chassin here with you for the next half hour. On today's show, mobile home sales are down across British Columbia. Some mobile park owners are refusing to sign a controversial bank form, blocking transactions. Mobile home owners caught in bureaucracy.
It's a form that is overcomplicated, adding too many terms and conditions onto the landlord. It puts the bank as a subtenant, and that's why landlords are getting frustrated over these forms and not signing them.
A generous land donation helps to expand the Amlagog First Nation Conservation Project near Sackville, New Brunswick.
So Fort Folly has a fund set up, and through this fund, we purchase lands or people donate land to conservation, and we hold it in trust.
And an arbutus wood sculpture from BC shows his best work for the first time in 23 years.
On the July 1st long weekend 23 years ago, I kayaked to Refuge Cove with a satchel full of my stuff, and the buyer bought everything I had at it. But since I was totally broke, I sold it all for about $430, and I paddled back through Desolation Sound to Tiber Bay, and I said, I guess I'm in the arbutus business, and that's how it began.
Welcome to Viewpoints.
Local news nationwide.
Follow us on Twitter at CanadaLJI. Listen to all our news online at canada-info.ca.
Thanks for keeping us company. So we're definitely in the summer groove at Viewpoints. Today we'll be talking about land, arbutus art, and trailer park homes. But first to British Columbia, where a simple bank form is causing mobile home sales to fall through across the province. The form in question, called 1097, complicates the relationship between mobile home owners, their landlords, and the bank, which finances the transactions for mortgages. This is especially problematic when a mobile home is bought and sold. Since June, Ed Koski and his wife have been trying to sell their mobile home in the Hideaway Trailer Park in Revelstoke, but they can't because the owner of the trailer court won't sign a form that allows the buyer to borrow money for the sale. The form in question is called the Model Assignment of Lease Consent Agreement for Manufactured Homes. Trailer park owners call it 1097. Trailer park owners who have been trying to get a better form from the banks for decades say the form adds terms and conditions that complicate the tenancy agreement. And it's becoming a real...
A bank form that allows the buyer to be approved for a mortgage. Park owners call it the 1097 form. Ed Koski and his wife moved to Revelstoke from Golden 9 years ago.
I live at 38 Hideaway Trailer Park, and we have a real issue with trying to sell our mobile home.
Koski had accepted an offer in June for full asking price, but the sale didn't go through.
We were informed shortly after that the landlord, with advice of his lawyer, had refused to sign the bank document, Model Assignment of Lease Consent Agreement for Manufactured Homes.
Now Koski's got a folder full of printed off emails, letters, documents, and forms, and he's doing everything he can think of to find a solution to his problem. He reached out to the Canadian Mortgage and Housing Corporation and the BC Residential Tenancy Branch. Both told him they don't get involved in issues between banks and lawyers.
On July 13th, I formulated a letter stating the facts to date and results of the ill-fated decision of Arrow Law to advise landlords not to sign the lease consent agreement that has been in place since 2002, explaining the only way forward now is a sit-down meeting with all lending institutions and lawyers and come up with an amicable agreement for a binding lease consent agreement. I hand-delivered this letter to every lending institute, every lawyer, all realtors, and the mayor's office, and as many tenants of our mobile home park as I could.
Willie Kovacic is the president of the Manufactured Home Park Owners Association of BC. He owns two trailer parks in northern BC and is based in Kelowna. He says park owners have for decades tried to work with banks to come up with a form they're comfortable with.
It's a form that is overcomplicated and adding too many terms and conditions.
When people need to borrow money to buy a trailer, it's called a chattel mortgage. They own the trailer, but the park owner owns the land. The bank requires the form because of this relationship.
What the bank wants to do is to have a form that says if by any reason the tenant defaults on the monthly payment of the rent, that the bank can take over the tenancy without any sort of obligations or any sort of, it's just a direct relationship to the bank. The unfortunate part is it's not that simple. The bank is adding additional terms and conditions onto the landlord, which complicates the relationship between the actual tenant and the landlord. It puts the bank as a subtenant in there with additional terms and conditions. And that's why landlords are getting frustrated over these forms and not signing them.
Kovacic says the forms make no sense because as a trailer park owner, when someone's buying a trailer, he gets one of these forms to sign and he reads it over. And he crosses out terms he doesn't like that he says complicates the tenancy relationship. And he says the bank accepts these amended forms.
And I'm going, well, if this form is absolute and I'm amending it, why do we have to even bother?
Kovacic says park owners talk to each other like in any industry.
So on the island, I spoke to the lady who says, I will absolutely not sign that form. Here's her scenario, if you've got a minute. She had a tenant, stopped paying, was a very difficult tenant, was disturbing the other neighbors, doing things that were not only against the park rules, but illegal. And the person stopped paying rent, so they got an order of possession to get rid of the tenant. The bank stepped in and said, no, you can't do that. We are not accepting the order of possession. The tenant moved back in and thought they were invincible, started getting worse and escalating, and eventually got arrested. But in that case, the landlord spent $15,000 to resolve that with the banks. And so when other landlords hear that, how frustrating it can be with a bank, they go, well, why would I want to sign this form that potentially could explode into a very expensive proposition?
Todd Arthurs is Ed Koski's real estate agent here in Revelstoke. He says park owners have been signing the same form for years, and now some aren't. He's been hearing about sales falling through in Salmon Arm, too. After the owners of Hideaway Trailer Park refused to sign the form for Koski's sale, Arthurs said sales were stalled at other trailer parks in town for the same reason. The unsigned form holding up Koski's sale is from the Revelstoke Credit Union's lending department. Stoke FM reached out to them but hasn't heard back. Stoke FM reached out to Andrew Young, the owner of Hideaway Trailer Park, and didn't hear back. Michael Schottinger is the lawyer from Arrow Law who represents the owners of Hideaway. Stoke FM wanted to ask him why he's advising owners not to sign the form. He refused to speak, citing client confidentiality. He said he costs $300 an hour and he didn't think the radio station would be able to compensate his time. Like Koski, Willie Kovacic wants banks to come up with a uniform form that isn't overly complicated.
And it'd be nice if there was one 1097 form and it was the same form every time.
Gary Sulls is the mayor of Revelstoke.
Well, it's a massive problem or massive issue. We have 13% of our population living in mobile homes in our community.
Sulls says people buy trailers to get into the housing market. He says if these sales become inaccessible, this could further push out a demographic that can't afford to rent or buy houses in Revelstoke. The mayor doesn't have jurisdiction over bank forms, but he says he'll do what he can to encourage lenders and their lawyers to come up with a solution.
If I can motivate them to have those conversations, then I'll try and do that. But really, it's not a role of the city to play, with the exception of I'm concerned about our citizens in the community. So how do we get this done?
In Revelstoke, I'm Megan Dooling.
I'm Anastasia Avakumova in beautiful British Columbia, and you are tuned to Viewpoints. Follow us on Twitter at CanadaLJI and get all our stories on canada-info.ca.
And we stay out west to follow local artisan Ron Bazaar, who has been sculpting and carving his art out of arborist tree wood for the past 23 years. And he is now revealing never-before-seen arborist tree art. The work, some of his best stuff, he says, have been hidden away from the public eye since their creation. Bazaar works the forest fodder into kitchen utensils, letter openers, and other products that he is known for and sells at Friday markets on Cortes Island, British Columbia. His works were shown at Manson's Hall Community Center on Cortes Island, BC, earlier this month. Bazaar, who has been collecting showcased pieces for the past decades, says there's a uniqueness to each piece of wood he works on. For those of you who don't know what the tree looks like, it's really beautiful. Every trunk has a different shape. Some have many colors, are sometimes twisted, rippled, and kind of lightly textured. Smooth, even, some would say. And the grain of the wood is quite unique. Lonnie Taylor caught up with Bazaar in his local forest to find out about the process behind the production of this beautiful local art.
I'm glad we're actually in the forest because that's where it gets started, isn't it?
Began right outside my house. I built a small woodworking shop, a very small 8 feet by 10 feet the inside, for my wood turning hobby, which I hadn't done in about 25 years. And finally I built this thing, and then I had to find some wood to do some turning with. And there was this stump of an old arbutus tree that may have been hit by lightning or something years and years ago. So I tried to cut into it with my chainsaw, and it was like a rock. Eventually I got some of that out, and I did a couple of turnings, but before you turn, stuff got chopped to help round it a bit, and so the cutoffs went into my kindling box, and I was looking at one piece there, and I said, geez, I could make a letter opener out of that. So I made, very slowly, took days to make a tiny little letter opener that I sent to my mom for her birthday. And she loved it, and she said her friend wants one. So I made another one and sent to her friend, and her friend wanted one too. This is in the day before emails. So people still had letters and wanted to open them. So I was pretty broke at this time, and I started making a bunch of butter knives and letter openers. And on the July 1st long weekend, 23 years ago, I kayaked to Refuge Cove with a satchel full of my stuff, and the buyer bought everything I had at a big discount off of my wholesale price. But since I was totally broke, I sold it all for about $430, and I paddled back through Desolation Sound to Tiber Bay, and I said, I guess I'm in the arbutus business, and that's how it began.
Amazing. So you're using fallen wood in the forest, and specifically arbutus and manzanita, is that right?
Almost everything is arbutus. I do a little bit of manzanita because it's so rare. But yeah, forest fall downs or blow downs or standing dead trees. There's an arbutus tree will die. You'll see no branches, no leaves on them, and those are ideal to cut. But sometimes you get incredible wood from a tree that got blown down. Every tree is different, just like every person is different. So when you're looking at arbutus wood, there's a whole range of colors and textures. And over the years, after making thousands and tens of thousands of products over the years, every time I'm making some, I have five different grades, from functional, deluxe, ultra, collectors, and supreme. And each grade, the wood gets rarer, gets finished more smoothly and finer with a lot more sanding and oiling. And the rarity is pretty incredible on some of them. But eventually I started saying, this is too good to sell. And I stuck it in my box upstairs in the corner, and over the years kept adding and adding to it. And I came across it recently, and I said, it's taking up space and I got too much here. I'm going to have a show and sell this off and blow people's mind at how incredible some of this arbutus is. What I mostly sell is my deluxe grade. I sell some of my functional stuff at the food co-op. My deluxe is at the craft store in Squirrel Cove, occasionally something a little bit better. I sell most of my business is wholesale into Vancouver or Victoria craft shops there that I load up on consignment. But I don't sell a lot of my very top grades. And if you want something really special just to look at and all over, come to the show. And if you've got a pocketbook with extra dollars in it, you may want to buy a one of a kind unique gift, because they're going to be quite incredible and costly. And I'm going to donate 10% of my proceeds to Manson's Hall, where I've gone for all these years every year to the Friday market. And so that's been a kind of a fun thing for me to do every summer.
So this is never before seen.
Seen this before. No one. Some people have seen some of my pretty good stuff, but there's some exceptional pieces in here. Bird's eye arbutus.
What does that mean?
Bird's eye is from the burl wood. It's got these little eye-like little dots all over. Bird's eye maple people are familiar with, but this is there's some of that. There's such a range of colors and textures and mixtures of dark brown and reds. It's spectacular.
This is the first time you've ever had a show?
Like this.
And this is the first time you've ever shown this specific work, this really high-end stuff that you've been collecting
I just took the box down 2 weeks ago.
Are you excited?
I'm excited. It was quite something to see. It's a lot of work to organize it and sift through it all, because some of my early works, my skill level has changed dramatically over the years. I'm going to show some of my very primitive stuff that I began with axe and hatchet until I had an axe accident trying to trim some of the stuff. And I went to my friend Bill Friedel, everybody knows him, who's a house builder and former craftsman woodworker. And I said, Bill, there must be an easier way to do this, because I never thought I would be a craftsman. And the last thing, if you told me I'd be doing this for 23 years, I would have laughed and said, impossible. He showed me a bandsaw and how that works. I said, oh. Then he showed me a sanding machine. He said, oh, because I knew nothing about this. I built my shop for my wood turning. It's all I knew was simple wood turning. I used to make lamps and peace pipes and smokable pipes, big giant ones, like 3 feet long. And so, yeah, I hope to one day turn my wood lathe that became my sander for all these 23 years. I want to revert back to my original idea of the wood turning. So hopefully in my next incarnation after this, I can start doing that. I keep getting calls from my wholesale customers. They want stock. So just in the last 2 days, I've gotten one order from Salt Spring Island and another from Granville Island in Vancouver. Of course, I don't have quite enough stock, and I'm always scrambling to fill these things.
Your art is a business, and you're using wood off the ground. You didn't cut a tree to start this business. So this is a value-added wood business on Cortez that you are exporting off-island.
Yeah.
Do you know many other businesses on Cortez that are doing that capacity?
I guess someone who makes a jam or something would be similar, or if they're selling off-island.
But you don't know anyone else that is exporting reclaimed wood, value-added wood products on Cortez?
Yeah, that's true. I don't. But there's certainly an opportunity for people to take from the forest and make a finished product and sell wholesale. My background is business, so when I started getting into it my motto was always, how can I do this faster, better, and cheaper? And even a few weeks ago, I learned a refinement of a technique to make things a little bit more incredible. Like some of the knives, I had an order for 400 knives. They're even finer, the shape. Subtle differences that I could explain and show someone, but they make the product even more beautiful.
Are you ever offering workshops or apprenticeships or any type of educational opportunities for people that...
If anybody wants help, give me a shout. I'm happy to share my knowledge because business is my background. So that's why I say I never would have imagined in a million years that I'd be a craftsman. And it's my longest lasting business that I've ever had. I've started many businesses, almost all the wood. Occasionally someone will call me, not so recently, if they had an arbutus tree that came down, and I would go get the wood and make them some product in exchange. But most of the wood comes in Tiber Bay nearby.
Lonnie Taylor, Cortez Island.
This episode of Viewpoints is a rerun. First Nation Conservation Project got a great push from a private landowner and family after they donated a parcel of land to the community. Amlagog, or Fort Folly First Nation, has just announced that this new parcel of land will be protected under their Indigenous Protected and Conserved Areas project. It is a small 3-acre strip of land along the Pitticodiac River. It was given to Amlagog First Nation by a Memrikuk family. The latest parcel is part of a growing collection of land protected by the First Nation. Part of the project is building a guardianship program, training people in monitoring and conservation, and empowering them to stand up for Indigenous land rights. Erica Butler is in Sackville, New Brunswick. She spoke with Amlagog First Nation Cultural Coordinator Nicole Porter about this conservation and guardianship program.
So Fort Folly has a fund set up, and through this fund, we purchase lands, or people donate land to conservation, and we hold it in trust for everyone to be able to use in a good way, in a sustainable way. It won't be harvested for like clear cut down. It won't be developed or anything like that. It is strictly for conservation.
Three other groups in the province also have IPCA projects underway, and Porter says they work in concert to protect land and make it open to the Mi'kmaq people all across Mi'kma'ki.
We do have parcels all around the Tantamar area that we have identified as sacred, or we use it for ceremony, for gatherings. We identified all these areas, and that's where we're focusing on for us.
The IPCA projects were started about 5 years ago, and part of the plan, says Porter, involves the province matching and donating some Crown land for conservation. But that hasn't quite come to fruition, says Porter.
The New Brunswick government has not reached or given any Crown land that we've identified as sacred Indigenous areas, or areas that we need for our medicines and gathering. They haven't given any of that land, to my knowledge, back.
Amlamgook First Nation has made some progress over the years the IPCA project has been running, with a number of parcels on land on the Fort Folly Peninsula between the Memramcook and Pitticodiac Rivers, and also surrounding the current community home outside Dorchester. Porter says the existing buildings and trails on acquired land will remain, but the intention is to prevent further expansion or development. For example, on the Fort Folly Peninsula, there are a number of ATV trails.
And those will continue to still be used, but then what we would do is just monitor, making sure there's no additional trails being built or put in, or any more off-roading is being done.
Porter says part of the project is building a guardianship program, training people in monitoring and conservation, and empowering them to stand up for Indigenous land rights. Currently, a group of summer students are being trained.
They are actually getting the training. They're hands-on out there identifying the plants that are on these IPCA project, our lands that we've acquired. They're going out, putting in like minnow traps into the rivers, the streams. They are doing water analysis. So they're actually testing the waters to see, you know, is there any toxins in there? Cleaning up those lands as well, too. So when they're out there, if they see any old dump sites, we'll identify it, and the habitat will go in as part of their projects and clean up those land sites as well, too.
That's Nicole Porter, cultural coordinator with Fort Folly or Amlamgook First Nation. The most recent IPCA donation came from Daniel LeBlanc and family, and is a 3-acre strip of marsh along the Pitticodiac River at Beaumont, the original site of the Fort Folly settlement. The gift of land was celebrated last week, following this year's ancestor ceremony at Beaumont, just 100 meters away.
Beaumont is one of the oldest burial sites for our people, so we want to make sure that we continue to honor our ancestors in a good way. So I started doing yearly ancestor ceremonies there, and I have Elder Donna Augustine come down. And she was one of the elders, as well as Gilbert Sewell, that helped repatriate some ancestor bones from Skull Island. So this site is also a reburial site of some of our Mi'kmaq ancestors that are dating back, I think it was like 1400 AD, is what these bones were dated to. Yeah. So it is a very special site. So we want to honor those. And so that's what we were doing there. And I usually hold it around the same time that we would have normally gone over there and done our St. Anne's Day celebration and our Community Day feasts here now. So we go over there, we have ceremony, and then we come back here and have our feast part afterwards.
Porter says Beaumont was once a major gathering place for people from all over Mi'kma'ki, with St. Anne's Day celebrations often drawing leaders from as far as PEI, Cape Breton, the Gaspé, and Newfoundland. The St. Anne de Beaumont Church still stands there, though Porter says Emlumgook no longer uses it for ceremonies. The use of the area, says Porter, dates back before that and was part of a larger transportation route.
But before that church was even built, some of our elders talk about a time where they would just come and it'd be like a stomping ground, a resting spot before they would take off on their journeys. So with the area of Beaumont where it situates right along the Petticoatiac River. So if you stop there, let's say you're coming from Jibuk to Halifax, using our waterways and our portage routes, you can travel, stop over in Beaumont, and then ride the tidal bore 20 plus kilometers up into like Sussex area, and then portage over to the Wollastook River, go further north up to Gaspésia in Quebec, Gaspé Peninsula, or you could even go down south to St. John into Maine just by riding that tidal bore. So it was a very, very prominent stomping location.
A three-acre strip of land at Beaumont is now part of the Emlumgook First Nation Conservation Trust, thanks to a gift from Danielle LeBlanc and family of Memramcook.
Thanks to Erica Butler for the story. And this completes this edition of Viewpoints, thanks to our journalists, Erica Butler, Loni Taylor, and Megan Dooling, national editors Victoria Fenner and Maureen McEwen. Viewpoints is brought to you by the Community Radio Fund of Canada. I'm your host and producer, Boris Chassaigne. It was great to have you with us. Please stay tuned to what follows. I hope you're enjoying your summer. See you next week. Ciao.
LJI. Listen to all our news online at canada-info.ca.
This episode was a rerun.
Yo, this is your girl, Tanya Sims, and you're listening to CKUT. Not touch the mouse, not scroll, not browse. Keep it locked, not touch the dial.
Cette émission de Point de Vue est une reprise. Salut à tous et à toutes. Bienvenue à Point de Vue. Boris Chassagne qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure. Au programme aujourd'hui, une femme atteinte du spectre de l'autisme trouve dans l'art une source de réconfort.
De devenir, astronaute, les jeunes, ils m'intimidaient là-dessus parce que vous savez qu'on peut pas devenir astronaute à quelques jours, là, tu sais, c'est impossible, je dirais. Mais, tu sais, c'était pas pour travailler, whatever, c'était juste pour aller sur la Lune ou à quelque part dans l'espace puis rester là. Parce que je me sentais pas bien sur la Terre. J'ai commencé à peinturer. Puis au début, c'était vraiment des choses sombres. C'était pas, tu sais, je savais que je flippais en dedans parce que j'avais de la misère à accepter mon syndrome parce que là, je comprenais pourquoi j'étais différente. Pourquoi est-ce que la société m'acceptait pas? Puis c'est en continuant dans la peinture que j'ai fini par être acceptée.
Un ancien conseiller municipal de la ville d'Ottawa fait le grand saut et devient le directeur général de la ville de Cornwall.
C'est un grand apprentissage pour moi. C'est aussi une belle opportunité d'entrer dans la gestion administrative au niveau municipal, au niveau public.
En Ontario, des brasseurs artisanaux se plaignent d'être parmi les plus taxés au pays et réclament des allègements fiscaux.
Vraiment, ce qu'il faut que la province fasse, c'est considérer le nom de microbrasserie, puis se dire, bon, mais c'est vrai qu'on est trop cher, on va leur donner un break, une pause. Pas forcément une pause, mais un petit peu plus de lousse, si on peut dire, là, au microbrasserie de l'Ontario.
Et le violonneux celtique Brad Reed perpétue le legs de son grand-père et y ajoute des influences du monde entier. Bienvenue à Point de vue, l'info locale partout au pays. Merci d'être avec nous. Passer de la sphère politique à celle de l'administration publique n'est pas une transition facile à faire, mais c'est bien le défi que va maintenant relever l'ancien conseiller municipal de la ville d'Ottawa, Mathieu Fleury. Monsieur Fleury, qui vient d'être nommé directeur général de la ville voisine de Cornwall en Ontario, Cornwall qui est à une heure de route de la capitale nationale Ottawa. Monsieur Fleury prend donc la tête de l'administration de la ville pour les 5 prochaines années. Né à Ottawa, Monsieur Fleury aura été conseiller municipal pendant 12 ans dans le quartier Rideau-Vanier à Ottawa. Élu pour la première fois en 2010, il a ensuite enchaîné 2 victoires aux élections municipales en 2014 et en 2018 et il ne s'est pas présenté aux élections municipales de 2022. Il change donc de ville et de chapeau et M. Fleury devra faire preuve de retenue dans son nouveau rôle car en tant que membre du conseil de ville d'Ottawa, il avait pour rôle de donner des directives aux administrations municipales. Là, c'est lui qui devra se placer en mode écoute. D'Ottawa en Ontario, Marie-Hélène parle avec Mathieu Fleury des défis qui l'attendent et des idées qu'il a en tête.
Un nouveau poste pour Mathieu Fleury. L'ancien conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier à Ottawa vient d'être nommé administrateur en chef de la ville de Cornwall dans l'Est ontarien. Il se prépare pour relever ce nouveau défi.
C'est une nouvelle qu'on a pu annoncer lundi dernier, mais ça fait déjà plusieurs semaines, sinon mois, que ça se prépare de mon côté. C'était important de préparer. Évidemment, c'est une responsabilité importante. Le conseil municipal, tout conseil municipal en Ontario, on engage un employé. C'est la direction générale, c'est le chef des administrations. Puis dans ce contexte-ci, j'ai eu la confiance du conseil municipal de la ville de Cornwall pour les prochaines années. Donc, je me suis préparé, puis je suis encore à l'écoute. Là, je viens de commencer les rencontres de bréfage avec l'équipe des différentes directions. C'est un grand apprentissage pour moi. Puis aussi une belle opportunité d'entrer dans la gestion administrative au niveau municipal, au niveau public. J'œuvre dans le milieu municipal depuis longtemps à plusieurs égards. Les défis, je les connais. Puis évidemment, il y a d'autres réalités dans une municipalité comme Cornwall que je vais apprendre. Je m'entoure, j'écoute, puis j'amène les outils que je pense que j'ai pour faire la différence, pour appuyer les directions, puis le plan stratégique du conseil municipal qui a un mandat là encore pour plusieurs années.
Tu es francophone, Cornwall est une ville francophone. Est-ce qu'il y a un plan pour justement la vitalité de la langue française?
Ben, tu vois, c'est dans la tête des élus municipaux. Mm-hmm. Ils reconnaissent la valeur ajoutée de la francophonie. Ils reconnaissent aussi la sensibilité, l'importance d'avoir des stratégies. Ayant visité dans mes trois premiers jours, plusieurs membres de l'équipe. Il y a beaucoup, la plupart des gens sont bilingues. Comment la ville offre ses services, puis comment on fait pour permettre l'épanouissement de la langue française, puis la collaboration avec les organismes communautaires. C'est encore trop tôt pour moi de vous donner un échiquier complet, mais c'est sûr que c'est sur la... Il y a des discussions stratégiques, une retraite du conseil municipal qui va avoir lieu cet automne. Puis évidemment, ça va faire partie des discussions. Donc, à la fin de l'année ou en début 2024, on sera en meilleure position d'éclairer là, comment la ville planifie son implication, autant comme gouvernement, comme employeur, que pour les résidents de la municipalité de Cornouailles.
Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels, d'autres sujets que tu vois que tu as envie de travailler, tu as envie d'avancer, des dossiers qui sont importants pour la ville de Cornwall?
Plein de dossiers. C'est sûr que c'est très similaire à d'autres villes en Ontario. Mm-hmm. Le logement abordable, l'économie, tout ce qui a rapport avec la relève. Il y a beaucoup de roulements d'employés dans les municipalités pour toutes sortes de raisons. Donc, comment on peut faire pour vraiment miser sur la qualité du service, la qualité de vie dans la ville de Cornwall, comment on peut faire aussi au niveau des relations avec la communauté Mohawk d'Akwesasne, qui est la communauté voisine à celle de Cornwall. Donc, il y a plein d'éléments comme ça qui sont importants. C'est une communauté qui souhaite grandir, donc ayant tout près de 50 000 résidents, on veut franchir le cap des 50 000, mais arriver à une municipalité avec 50 000 résidents, quelles sont les stratégies pour le gouvernement, pour la municipalité de bien se positionner pour bien desservir les résidents?
Selon toi, quelle est la place de Cornwall dans l'Est ontarien?
Ben, Cornwall joue du fait que c'est vraiment très bien positionné entre Montréal et Ottawa. Mm-hmm. Une heure d'Ottawa, une heure de Montréal. Autant le milieu du transport que plein d'autres éléments, là, que ce soit la 417, la 401, sont tous des éléments qui font que c'est une valeur ajoutée, évidemment, à la municipalité, puis son potentiel qui est très significatif. Donc, on a une responsabilité régionale pour différents services, au niveau du logement, services de garde pour les jeunes, que ce soit au niveau des services sociaux, paramédiques. Donc, c'est pas juste la municipalité de Cornouailles, c'est toute la région SDG. Puis elle est bien positionnée, il y a un potentiel immense. Donc, il y a un beau momentum ici, puis il y a une belle qualité de vie. Il y a beaucoup à miser, il y a beaucoup aussi à partager. Évidemment, je suis nouveau, j'en découvre beaucoup sur cette belle ville.
Le conseil municipal de Cornwall a confié à Mathieu Fleury un mandat de 5 ans.
C'était une entrevue de Marie Hillès dans le cadre du programme IJL.
Bonjour, ici Adèle à Halifax en Nouvelle-Écosse. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Comment transformer un handicap en une force motrice qui se mette au service des arts visuels? Eh bien, Julie-Pierre Lévesque a trouvé la formule gagnante. Atteinte du trouble du spectre de l'autisme, Julie-Pierre Lévesque expose les toiles qu'elle peint et elles attirent aujourd'hui la curiosité des amateurs d'art des hauts plateaux du Nouveau-Brunswick. L'artiste peintre Julie-Pierre Lévesque, originaire de Kedgwick, a pendant plusieurs années été Asperger sans le savoir et 10 ans après avoir reçu son premier diagnostic, elle se consacre aujourd'hui pleinement à son art. De Saint-Quentin au Nouveau-Brunswick, Maxime Gauthier.
Une artiste peintre originaire de Kedgwick se fait de plus en plus remarquer sur les hauts plateaux par ses toiles aux empreintes surréalistes. Alors que celles-ci sont actuellement exposées à la bibliothèque publique La Moisson de Saint-Quentin, nous nous sommes entretenus avec elle à la bibliothèque publique de Kedgwick le mardi 29 août. Il s'agit de Julie-Pierre Lévesque. Elle nous fait part d'abord de sa passion pour l'art.
J'adore le surréalisme. Peinturer des effets qui se peut pas, là, j'adore ça. Je peinture ce que je vois parce que j'ai une imagination débordante. Puis j'essaie d'aller dans tous les styles possibles dans mes peintures. Fait que c'est pour ça que je peux te sortir une peinture ranch, puis Bateau, c'est une peinture d'horreur. Je peux aller dans tous les différents types.
Âgée de 24 ans, Julie-Pierre Lévesque est atteinte d'un trouble du spectre de l'autisme. Et les étapes pour arriver à un tel diagnostic n'ont pas été de tout repos. Julie-Pierre nous partage ce moment difficile de sa vie.
Mon diagnostic, c'est très difficile. C'est la première fois que je l'en parle dans une entrevue. Avec la manière que ça s'est passé, on n'avait pas rien au Nouveau-Brunswick pour vraiment, faire des diagnostics pis ça. Fait qu'il a fallu que je sois transférée à Québec, dans un hôpital psychiatrique pour les jeunes. Lorsqu'il y avait vraiment des médecins spécialisés pour l'autisme pis ça, j'ai resté 3 semaines là-bas. Ça a été horrible parce que mes parents, eux autres, ils travaillaient, fait qu'ils pouvaient pas rester là. Fait que j'ai resté 3 semaines à Québec tout seul. Ils venaient me chercher la fin de semaine, le vendredi, puis le dimanche, ils allaient me revenir. Puis c'est après 3 semaines que j'ai su que j'étais diagnostiquée par hier. Puis une couple de semaines après, pour essayer d'oublier ça, cette 3 semaines-là, j'ai commencé à peinturer. Puis au début, c'était vraiment des choses sombres. C'était pas, tu sais, je savais que je flippais en dedans parce que j'avais de la misère à accepter mon syndrome, parce que là, je comprenais pourquoi j'étais différente. Pourquoi est-ce que la société m'acceptait pas. Puis c'est en continuant dans la peinture que j'ai fini par être acceptée.
Parcours scolaire difficile, intimidation, découragement et l'envie de décrocher. Julie Pierre s'est tournée vers l'art en guise d'exutoire.
Out of the blue, je me faisais beaucoup intimider. Là. C'était des cauchemars, puis je voulais plus aller à l'école. Fallait que mes parents me poussent à y aller. C'était juste horrible. Il y avait Pascal Bellevance, elle me demandait de... Elle faisait des cours d'art à l'école, fait que je me suis dit... Je devrais me changer d'idée parce que je trouvais ça dur. Hein. Tu sais, quand tu étais jeune, dans ce temps-là, je pense que tu n'avais pas le droit de quitter l'école avant l'âge de 16 ans. Puis je voulais quitter l'école, mais j'avais pas encore cet âge-là. J'avais peut-être 20, 12, 13 ans. Fait que là, j'ai pris des cours d'art. Puis c'est le même que ça a commencé, mais c'est juste arrivé en 2013 que là, j'ai commencé à faire mes prétoires.
Alors qu'elle était assistante en éducation à l'école Marie-Gaétane de Kedgwick, Pascal Bellavance se souvient très bien de l'année 2013 et du talent de son élève, Julie Pierre.
Moi, à travers mon travail, je travaillais beaucoup avec les enfants qui avaient des difficultés d'apprentissage ou aussi qui avaient des besoins spéciaux. Julie Pierre était une d'entre elles. Puis, en alternance, l'école Marie-Gaétane, à ce moment-là, faisait des activités parascolaires. Fait que moi, j'ai initié le programme qu'on pouvait faire de l'art après les classes. C'était toujours de l'art, puis on s'assoyait là, puis il y en avait plusieurs qui pouvaient faire de la peinture, il y en avait d'autres qui travaillaient des choses comme telles. Fait que là, elle a découvert qu'elle avait un talent de dessin parce qu'elle dessinait beaucoup. Puis avec ses dessins, elle faisait parler ses émotions. Puis je m'apercevais à travers d'elle qu'on pouvait voir comment qu'elle vivait son syndrome, puis comment qu'on pouvait percevoir et voir avec elle travailler aussi quand elle avait des besoins particuliers.
La manière que l'école fonctionne, c'est que tu as les cours réguliers, les cours de base normales. Puis tu as les cours pour les personnes comme moi, là, cours d'adaptation, puis ça, classe ressources. Fait que si j'aurais su d'avance que j'aurais été à Sparrière, probablement qu'ils m'auraient transféré en classe ressources directe. Mais là, on savait pas. Puis il n'y avait pas grand-chose par ici pour être diagnostiqué. Fait qu'à un moment donné, en quatrième année, si je me souviens bien, je me suis fait diagnostiquer, c'était quoi, syndrome du non-verbal de l'hémisphère droit. C'est quoi ça? Puis quand j'étais à Québec, ils m'ont dit que si t'aurais vraiment ce syndrome-là, tu serais pas capable de dessiner. Fait que c'est pas ça. Puis c'est là qu'ils ont découvert que j'étais Asperger.
Julie-Pierre Levert qui souligne que les choses auraient été différentes s'il avait reçu son diagnostic plus tôt, surtout pendant son primaire où elle a dû faire face à l'intimidation.
Parce que les jeunes m'intimidaient pour mes goûts spéciaux. J'aimais tel chanteur, comme quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup Adam Lambert, j'aimais le heavy metal. J'aime encore le heavy metal, mais c'est que les jeunes, je fais pas la mode dans ce temps-là, tu sais. Je voulais devenir, astronaute. Puis les jeunes, ils m'intimidaient là-dessus parce que je savais qu'on peut pas devenir astronaute à Kedgwick, là, tu sais. C'est impossible, je dirais. Mais, tu sais, c'était pas pour travailler, whatever. C'était juste pour aller sur la Lune ou à quelque part dans l'espace puis rester là. Parce que je me sentais pas bien sur la Terre.
Maintenant, 10 ans après avoir reçu son diagnostic, Julie-Pierre va beaucoup mieux. Par contre, elle doit toujours composer avec certains défis quotidiens.
C'est mieux mon côté Asperger, c'est sûr, comparé à quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, je comprenais juste pas ce qui arrivait. Mais j'ai encore des difficultés, je te dirais, là. Comme, tu sais, je peux aller à la cantine tout seul, pas de stress. Je peux aller à la bibliothèque tout seul. Mais quand je vais à l'épicerie tout seul ou tout ça, ça vient un labyrinthe, vraiment, là. Je viens tout petit dans ma tête, puis là, je commence à paniquer, on entend tous les bruits. Je veux juste sortir de là. Ça vient étouffant. C'est ça qui arrive.
Julie-Pierre Lévesque, artiste peintre âgée de 24 ans et native de la communauté rurale de Kedgwick. Ses toiles sont présentement exposées à la bibliothèque publique La Moisson de Saint-Quentin jusqu'au 31 août. Ceux et celles qui connaissent bien les œuvres de Julie-Pierre affirment à l'unanimité qu'elle s'améliore année après année.
En premier lieu, j'ai été énormément surprise de son talent parce qu'elle avait des couleurs, elle avait des agencements de couleurs qui étaient très impressionnants. Elle est autodidacte, ou presque. Elle n'avait jamais pris de cours à part de l'école. Puis, ce qui m'avait le plus surpris, c'était le nombre de sortes de toiles qu'elle prenait. Elle faisait, écoute, du dessin animé, des fleurs, un peu de toutes. Elle était tellement... on pouvait la ressentir dans ses toiles. On pouvait voir qu'elle avait... Son esprit était là, là. C'est vraiment génial de voir jusqu'à quel point qu'elle pouvait être artiste dans l'âme.
Je la suis depuis longtemps, depuis qu'elle a commencé à faire des toiles. Elle s'est beaucoup améliorée. Elle s'inspire beaucoup des films d'horreur aussi. Mais elle a évolué énormément. Au début, c'était comme des natures mortes, tout simplement. Là, on voit de plus en plus l'ombre, la lumière dans ses toiles. Quand tu l'as suivi, elle s'améliore beaucoup. Pour une artiste autodidacte, très, très bonne.
C'est à chaque fois, c'est toujours plus beau. Il y a toujours quelque chose, elle s'améliore d'année en année. Ses couleurs, j'ai jamais vu des toiles avec des couleurs aussi belles que ça. Il y a des petits détails. Tu te mets à regarder une toile, tu la regardes 2 heures plus tard, tu vas voir un autre détail.
Si Monseigneur de Nasparia me donne trop d'émotions d'une journée, on va me défouler sur une peinture. C'est sur Internet que je vois telle affaire, là, ça me rend stressée. Ou, mettons, une personne qui est malade, que j'aime beaucoup, là, mes émotions, ça déborde comme un volcan. Là, faut que j'aille peinturer. C'est quand mes émotions sont plus fortes que mes détails ressortent plus. Si je fais une peinture, j'ai pas d'émotion, ça sera pas beau. Mais si je fais une peinture, que j'ai beaucoup d'émotions, là, ça va être comme insane. Là,
bonjour, ici Maxime Gauthier à Saint-Quentin. Vous écoutez Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca et suivez-nous sur Twitter à CanadaLJI.
Les microbrasseries ontariennes affirment être plus taxées que leurs consoeurs du reste du pays et réclament des allègements fiscaux. Un regroupement de propriétaires de brasseries artisanales ontariennes se mobilise d'ailleurs pour demander au gouvernement provincial de leur donner un peu de lest et de réviser à la baisse les taxes qui leur sont imposées. Le ministère des Finances du gouvernement de Doug Ford en Ontario affirme avoir fait sa part et mis en veille plus tôt en 2023 l'augmentation prévue de la taxe provinciale sur la bière, laquelle avait été annoncée par le gouvernement qui l'a précédée, mais c'est loin d'être suffisant aux yeux de Mario Bourgeois, propriétaire de la microbrasserie Cassel. Ce dernier estime que cela ne suffira pas à colmater les brèches et à renflouer les coffres des industriels du secteur. De la ville d'Embrun, en Ontario, voici Rose Grezla.
Un groupe de propriétaires de brasseries artisanales de l'Ontario demande au gouvernement provincial de réviser son système de taxes sur la bière afin que les brasseries puissent se permettre de rester locales. Selon le propriétaire de la microbrasserie Castle de Castlemaine, Mario Bourgeois, les brasseries artisanales de l'Ontario doivent payer des taxes plus élevées qu'ailleurs au pays.
Si on regarde, j'ai pas les chiffres devant moi, je me trompe pas, Colombie-Britannique sont quasiment 3 fois moins que l'Ontario. Et si on peut se comparer un peu à les 3 Québec, Ontario et Colombie-Britannique pour vraiment les provinces où il y a le plus de microbrasseries. Et puis, le Québec, ils ne sont pas loin, ils sont un petit peu moins chers que nous autres, mais pas de si loin que ça. Mais définitivement, Colombie-Britannique sont beaucoup moins que l'Ontario. Puis, il y a beaucoup de microbrasseries en Ontario, donc je ne vois pas pourquoi on paye tant que ça.
En Ontario, les taxes pour les brasseries comprennent une taxe de base sur la bière de 39,5 cents le litre, une taxe sur le volume de la bière de 17,6 cents le litre et une taxe environnementale de 8,93 cents pour chaque contenant non réutilisable utilisé pour emballer la bière, quelle que soit la taille de la brasserie. D'autres provinces, dont l'Alberta et la Colombie-Britannique, sont passées à une structure fiscale à plusieurs niveaux qui s'ajuste à la taille de la brasserie et à la quantité de bière qu'elle produit. Le résultat est que les brasseries artisanales de l'Ontario paient des centaines de milliers de dollars de plus que d'autres régions du pays. Le propriétaire de la microbrasserie Cassour, Mario Bourgeois, et le propriétaire de la brasserie Tuc de Brou d'Embrun, Nicolas Malbeuf, affirment qu'il est difficile de faire du profit dans cette industrie en Ontario à cause du système de taxes élevé sur la bière.
Dans l'ensemble, rares sont les microbrasseries qui font un bon profit annuel. Donc, c'est une réalité de la chose. Beaucoup de personnes se sont lancées, dont moi, dans l'industrie brassicole, de microbrasserie avec passion. Aussi, sachant que c'est une entreprise quand même pour rouler, mais on est arrivé vite à la réalisation que c'est pas une industrie profitable. Donc, c'est ça qui rend les choses difficiles quand on a des taxes si élevées à payer. Avec la pandémie, il y a plusieurs microbrasseries qui vont fermer. On s'en cache pas. Même moi, à Castle, c'est maintenant Tuc de Brou qui fait ma bière maintenant, tu sais. Faut que je paye quand même le même montant de taxes à la province. Ça change rien à ce niveau-là. Mais j'ai été forcé à vendre mes équipements parce que la profitabilité n'est pas là, n'est pas au rendez-vous.
La taxe qu'on paye à la province, ça comprend beaucoup de choses. Ça comprend la taxe environnementale, qui est comme le coût de la canette, là, quand elle se fait recycler, que tu la rapportes au beer store, par exemple. Ça inclut ça. Nous, on paye pour ça. Là. C'est pas un cadeau du beer store qui te redonne 5-10 cents. C'est nous qui payons ça d'avance. Il y a les frais de LCBO, puis il y a aussi les frais, justement, de la province de l'Ontario pour la taxe directe. Là. Fait que tout ça ensemble, surtout si on passe à travers des channels, par exemple, de la LCBO, ben là, ils prennent une autre portion des profits aussi. C'est vraiment difficile de trouver notre part là-dedans. Dans le coût de la canette qui a augmenté avant COVID, même, l'aluminium avait bondi de 3 fois, le prix. Le malt avait déjà commencé à augmenter. Puis avec COVID, ben ça s'est tout est devenu ridicule. Même les étiquettes, le transport, il y a toute une taxe supplémentaire de transport par-dessus, pas une taxe, mais un frais supplémentaire pour les frais d'essence supplémentaires qui rajoute en dessous du prix de shipping en ce moment, de transport. Fait que c'est vraiment difficile pour nous. C'est comme un genre de nouveau monde là, qu'on vient de se retrouver. Là. Peu importe le budget que tu avais fait, là, 7 ans, 5 ans, 4 ans, ça se reflète pas du tout à la réalité d'aujourd'hui. Fait que c'est vraiment là Mario qui fait ses décisions, vendre ses équipements à Casso pour qu'on puisse brasser pour lui. C'est une très bonne décision pour lui, ça fait du sens. Chacun essaie de trouver sa place dans ce nouveau marché.
Le ministère des Finances de l'Ontario a déclaré que la province a suspendu une augmentation prévue de la taxe sur la bière mise en place par le gouvernement précédent, a annulé une augmentation en 2018 qui aurait augmenté les tarifs de 3 cents le litre et a retardé la reprise des augmentations annuelles plus tôt cette année. Selon Mario Bourgeois, le propriétaire de la microbrasserie Cassour, ce n'est toujours pas suffisant pour maintenir une industrie saine.
Bien, c'est bien beau retarder, mais on sait bien qu'à un moment donné, ça va nous rattraper, puis il va falloir payer le plein prix, tu sais, ce qui est ridiculement haut. Vraiment, ce qu'il faut que la province fasse, c'est considérer le nombre de microbrasseries, puis se dire, bon, mais c'est vrai qu'on est trop cher, on va leur donner un break, tu sais, une pause. Pas forcément une pause, mais un petit peu plus de lousse, si on peut dire, là, aux microbrasseries de l'Ontario. Je trouve que ça devrait être harmonisé, cette taxe-là, sur la bière, comme tu l'as mentionné, tu sais, à travers le pays, parce que, je pense que ça serait plus simple. Je sais bien que c'est une taxe provinciale, donc c'est un Je sais bien que ça va être difficile à parvenir à avoir une taxe fédérale sur la bière, même pratiquement impossible, probablement à cause justement de la bureaucratie. Mais c'est sûr qu'il devrait avoir un standard de prix.
Selon le propriétaire de la brasserie Tuc de Brou, Nicolas Malbeuf, il est aussi important pour les consommateurs des petites communautés de supporter les microbrasseries de leur région pour aider à l'économie locale.
Écoute, on fait nos démarches, là, l'Association des microbrasseries de l'Ontario, pour faire nos pressions envers le gouvernement, mais il y a toujours le consommateur à la maison qui peut voter en faisant son choix. Je le dis depuis le début, quand un consommateur choisit d'acheter une bière de microbrasserie, ben ça change tout. Quand il t'achète une bière des gros méchants loups, ben ça change rien. Ça avance pas. Ça apporte pas d'argent à la communauté, ça n'apporte pas du support aux événements communautaires, à la culture. C'est vraiment important de ne pas oublier. Maintenant que COVID, les restrictions sont complètement parties, faut quand même pas oublier de supporter l'économie locale. C'est vraiment les façons du futur de supporter l'économie locale. On achète nos houblons locaux, on achète notre malt le plus local possible. On fait un grand effort. C'est le fun de voir quand la communauté s'implique, elle aussi, et achète la bière locale.
Rose Grezla, dans le cadre de l'initiative de journalisme local.
Cette émission de Point de vue est une reprise.
Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête à la baleine en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.
La musique aura toujours fait partie de la vie du musicien Brad Reed, originaire de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Et s'il est encore jeune aujourd'hui, sa feuille de route en impressionne déjà plus d'un. Après avoir obtenu son diplôme en musique jazz de l'Université Saint-François-Xavier, Brad Reed a passé 7 ans à travailler sur des navires de croisière en tant que musicien et chef d'orchestre. Aujourd'hui, Brad Reed dévoile ses propres compositions avec une valise pleine d'influences inspirées de ses voyages dans le monde entier. Il vient d'ailleurs de lancer en mai son second album intitulé The Bridge. Le titre New Waterford's Finest, que l'on entend en sourdine, en est tiré. De Chitikan, Daniel Aucoin nous a préparé ce qui suit.
Brad Reed est un musicien connu et reconnu par ses pairs comme étant un musicien accompli. Il a commencé à faire de la musique à l'âge de 7 ans. Lorsqu'il avait 11 ans, il s'est enseigné lui-même à jouer de la guitare. On écoute Brad Reed nous parler de ses influences musicales.
J'ai joué le violon, la musique traditionnelle de Cap-Breton, mais aussi, quand j'étais jeune, j'ai joué le saxophone dans l'école et dans l'université. Donc maintenant, j'ai mélangé les deux. Et j'aime écouter le pop et le jazz. Donc, je mélange toutes mes influences.
En 2021, Brad Reed a reçu une nomination pour enregistrement folk de l'année et une nomination pour enregistrement traditionnel folk de l'année au Nova Scotia Music Awards. Il a aussi participé à une tournée en Russie avec le Cercle du Soleil, où il jouait la clarinette, le saxophone et la guitare tout en patinant. Brad Reed nous parle ici de son dernier album intitulé « The Bridge ».«
The Bridge » est sorti en mai cette année, et c'est un pont entre la musique traditionnelle de Cap-Breton et d'Écosse, et entre la musique et la musique d'aujourd'hui, comme le pop et le jazz que j'écoutais quand j'étais jeune et aussi aujourd'hui.
On dit que le musicien Brad Reed est à son meilleur sur scène. Sa présence sur une scène ne passe jamais inaperçue. Le voir en spectacle est toujours une expérience aussi unique qu'inoubliable. Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chitikan en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Et voilà, c'est sur ce reportage de Daniel Aucoin qu'on se quitte cette semaine. Merci à nos autres journalistes Rose Grisla, Maxime Gauthier et Marie Hillès, coordonnateur national Stéphane Bénard. Point de vue est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Ici Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Merci de nous tenir compagnie. Restez à l'écoute de l'émission qui suit. À la semaine prochaine. Ciao! De Point de vue est une reprise.
Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
cœur à cœur avec toi. CKUT 90,3 FM. CKUT, heart to heart with you.
Trouble at mine.